Gouinement Lundi, votre phare dans la nuit.
Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans cette émission de mars 2024 de Gouinement Lundi. On est en direct dans les studios de Fréquence Paris Pluriel, 106.4 FM. Alors on a commencé le mois de mars avec une belle victoire féministe, avec l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. On a manifesté le 7, le 8 et ce mois-ci on a beaucoup entendu parler des violences sexistes et sexuelles, notamment dans le cinéma, et du manque de moyens dédiés par l'État français pour obtenir des résultats un peu signifiants. À Gouinement Lundi, on a décidé d'aborder un sujet qui est un petit peu tabou dans les luttes féministes et queer, même si petit à petit il revient sur la table, notamment dans un article dans la revue de La Déferlante ce mois-ci. Et on va parler en fait des violences au sein des couples lesbiens, qui peuvent inclure des personnes bi, trans ou non-binaires. Bref, on va parler des couples queer et sans mec cis. Alors on va faire la mise en garde ou le trigger warning si c'est un sujet qui est difficile ou qui peut réveiller des choses difficiles pour vous. Peut-être switcher sur un autre programme, écoutez-le seulement si vous le sentez bien ou si vous êtes dans des bonnes conditions. Voilà, donc passé ce trauma avertissement, comme on dit chez nos amis québécois, je vous propose qu'on se lance dans cette émission avec nos deux invités. Moi je me présente, je suis Sophie, j'anime cette émission avec Joséphine, qui est non seulement membre émérite du collectif Gouinement Lundi, mais aussi juriste dans une association d'aide aux victimes.
Salut Sophie.
Salut.
Et pour aborder avec nous cette question des violences conjugales dans nos couples, je suis très heureuse d'accueillir les deux invités qui sont avec nous ce soir, avec un point de vue passionnant sur la question, une sociologue et une activiste. Merci à vous d'avoir répondu à l'invitation avec nous. Donc Sarah, tu es membre du collectif QRA, Queer Racisé Autonome, qui a lancé au printemps un groupe de parole sur le sujet. Peux-tu nous dire en quelques mots ce que vous faites au sein de QRA? Et depuis quand tu en fais partie?
Bonsoir à toutes, merci de m'avoir invitée ce soir. Je suis dans le collectif Queer Racisé Autonome depuis 3 ans. Ça fait 3 ans qu'il existe en tant que collectif. Avant ça, c'était une page Facebook qui regroupait plein d'électrons libres, donc de personnes concernées. On a un objectif triple dans le collectif. Premièrement, c'est de faire communauté avec des personnes queer racisées. Donc pour ça, on organise plein d'événements différents, conviviaux, des pique-niques, des repas, des speed dating, des jeux, enfin plein de trucs où on peut se rencontrer, créer du lien dans des communautés où les personnes elles peuvent être assez isolées. Donc ça, c'est notre premier objectif. Deuxième objectif, ça va être de répondre aux besoins matériels et sociaux des personnes de nos communautés. Donc on est dans des communautés où il y a disproportionnellement des problèmes de d'isolement, comme j'ai dit, disproportionnellement des problèmes de rupture familiale et la pauvreté et la précarité qui vient avec. On a aussi des personnes qui sont en situation d'exil. Nous, on va, à travers des actions de solidarité, proposer une aide matérielle et sociale. Notamment, un de nos plus gros projets, ça va être la cagnotte de fonds d'urgence. Donc, on organise pas mal d'événements de levée de fonds pour lever de l'argent qui va dans notre cagnotte. Et en fait, c'est de l'argent qui, quand des personnes queer racisées dans le besoin nous contactent, c'est de l'argent qui est redistribué vers elles. On organise aussi, donc, comme je disais, des repas solidaires, des repas gratuits, des groupes de parole, dont du coup, notamment le groupe de parole sur les violences conjugales. Et du coup, le troisième objectif du collectif, ça va être de militer, tout simplement, donc de construire un rapport de force avec l'État. On est, par exemple, un des collectifs qui est à l'initiative de la Pride radicale, qui a vu le jour il y a 2-3 ans. Et ça va être une Pride, une manifestation alternative qui va venir apporter des revendications plus politiques, des revendications antiracistes, anti-impérialistes, etc. Cette année, qui vont bien sûr pas mal parler de la question du génocide qui est en cours. Mm-hmm. Donc, du coup, voilà. Donc, pour faire une brève présentation du collectif, c'est un peu ça. Et nous, en fait, au sein du collectif, on a fait plein de groupes de parole sur plusieurs sujets différents, sur la question de la santé mentale, un groupe de parole sur les personnes lesbiennes, les personnes trans, etc. Et en discutant avec des camarades du collectif, on s'est rendu compte qu'on était plusieurs personnes à être concernées par la question des relations abusives et des violences conjugales. Mmh. Et à partir de là, est née l'envie de créer un groupe de parole sur ce sujet-là. Donc, on a créé ce groupe de parole qui a été un moment très fort, très, très émotif, etc. À partir de là, on a eu une envie, en fait, de pousser le truc plus loin. Là, on était plutôt dans un truc d'échanger avec des personnes concernées, de vraiment se soutenir, vraiment dans un côté un peu émotionnel, etc. Et on était en mode, comment on peut faire pour agir et pour changer les choses, pour protéger des potentielles victimes, pour proposer des solutions pour accompagner les victimes, etc.
Du coup, on va revenir, je pense, sur le collectif juste après, dans la suite. Est-ce que... Merci beaucoup.
Et du coup, Tania Leibovitch, tu es docteure et chercheuse à l'INED et tu as soutenu ta thèse sur le thème « Violence et écart de normes de genre, enquête sur les trajectoires de femmes victimes de violences sexuelles ». Est-ce que tu peux également nous résumer ton sujet de thèse et pourquoi tu as voulu travailler sur ce sujet ?
Bonjour, merci pour l'invitation. Effectivement, j'ai fait ma thèse à l'INED. Juste maintenant, je suis chercheuse à Paris 1, juste pour pas que je précise, pour pas qu'ils se vexent. Mais j'ai effectivement fait ma thèse à l'INED, donc, et dans ma thèse, je m'intéressais aux déclarations de violences sexuelles par les femmes pour, entre autres, essayer de comprendre pourquoi est-ce que les femmes lesbiennes et bisexuelles déclaraient plus de violences sexuelles que les femmes hétérosexuelles. Alors ma thèse, c'est une thèse en sociologie, en démographie, donc je m'intéressais à ce sujet aussi d'un point de vue quantitatif, en manipulant des données. Et pour travailler sur ce sujet de thèse, j'ai mobilisé les données de l'enquête « Violence et rapports de genre », l'enquête Virage, qui a été réalisée par l'INED en 2015 et 2016, et qui a la particularité d'avoir interrogé des personnes qui sont représentatives de la population française, mais qui a aussi développé un volet complémentaire dans cette enquête pour spécifiquement interroger plus de personnes LGBT, pour qu'elles soient surreprésentées, parce qu'on sait que souvent les personnes LGBT sont sous-représentées dans les échantillons en population générale. Donc c'est en mobilisant ces données que j'ai travaillé mon sujet de thèse. Et en étudiant ces données, je me suis finalement intéressée à un autre sujet qui sont les violences conjugales déclarées par les minorités sexuelles féminines. Ce n'est pas un sujet qui fait partie de ma thèse, hein, c'est un sujet de recherche que j'ai développé à côté. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait toute une littérature qui existait, surtout en Amérique du Nord, aux États-Unis, mais aussi au Canada, sur le sujet depuis les années 1980, qui étudiait en gros les violences conjugales subies dans des couples de femmes.
Ce qui est étonnant, parce qu'en en recherchant, on ne les trouve pas vraiment, en fait, ces chiffres-là, mais on reviendra dessus après.
Oui, en fait, il faut effectivement bien chercher. Alors, il faut chercher dans les moteurs de recherche des revues scientifiques, et en plus ceux qui sont en anglais, et c'est peut-être pas la littérature qui se trouve le plus facilement.
Eh ben, merci beaucoup, bienvenue à vous.
Bah, peut-être pour commencer, alors on a une petite partie, un peu de cadrage. On est hyper contente d'avoir, d'avoir deux points de vue qui nous semblaient super complémentaires. Un point de vue recherche et puis un point de vue activiste. Donc, merci beaucoup d'être là. Peut-être pour commencer, bien sûr, on va parler des violences conjugales spécifiques aux lesbiennes. Mais on voulait quand même bien sûr rappeler que le contexte global des violences au sein du couple, ça concerne en premier lieu des femmes hétéras qui sont victimes de leur conjoint homme. C'est un peu le disclaimer, puisque selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, c'est plus de 212 000 femmes qui ont été victimes de violences physiques, verbales, psychologiques ou sexuelles de la part de leur conjoint. Et c'est un chiffre qui est en augmentation. Alors, est-ce que c'est les signalements qui augmentent et les violences qui augmentent ? En tout cas, il y a une forte augmentation depuis 2016. Et sur l'ensemble des cas de violence, les femmes sont très majoritairement victimes et les hommes très majoritairement auteurs. On est à 87%, 89%. Donc, peut-être Tania, toi qui es dans les chiffres, est-ce que tu peux réagir sur ces chiffres ? Qu'est-ce qui t'évoque ? Et surtout, finalement, est-ce qu'on arrive à quantifier cette violence qu'on peut trouver dans des couples lesbiens ?
Eh bien, je trouvais que c'était très intéressant la façon dont tu as contextualisé ces données pour essayer de comprendre effectivement pourquoi est-ce qu'ils sont en augmentation. Est-ce que ce qui augmente, c'est le signalement des violences ou est-ce que ce qui augmente, c'est les violences ? Et en fait, c'est toute la difficulté quand on travaille dans les violences à partir de données statistiques, c'est qu'on a un peu du mal à pouvoir séparer un peu le phénomène de ce qui va amener à parler de ce phénomène. On va pouvoir certainement en reparler un peu, mais moi, c'est un peu l'angle que j'ai pris pour essayer de travailler le sujet des violences conjugales dans les couples de femmes. Mais sinon, pour répondre plus directement à ta question, travailler les violences, essayer de saisir les violences à travers des données statistiques, c'est effectivement quelque chose qui n'est pas si évident parce que on sait que les personnes ne reconnaissent pas forcément un même acte comme une violence, c'est-à-dire que deux personnes peuvent subir un même acte, une personne va pouvoir le qualifier de violence, une autre ne va pas forcément le qualifier de violence. Et à partir de ce moment où on est d'accord pour voir que le concept de violence est relativement hétérogène, c'est-à-dire il ne recouvre pas forcément les mêmes réalités pour les gens, on peut se demander comment le saisir dans des données statistiques, comment interroger en fait ce sujet.
Comme par exemple pour les violences sexuelles, quand on demandait est-ce que vous avez subi un viol, les personnes disent non, mais quand on leur demande si on l'a déjà forcé à avoir un rapport sexuel, elle dit oui.
Voilà, exactement. Typiquement, dans les grandes enquêtes sur les violences qui existent, donc il y a l'enquête Virage, mais avant, il y a eu l'enquête Envef qui avait été faite en France dans les années 2000. Puis il y en a d'autres qui interrogent les violences. Typiquement, on ne demande jamais aux personnes interrogées « Est-ce que vous avez subi des violences ?» Parce qu'on sait que ce mot ne parle pas à tout le monde. Donc, ce que fait les questionnaires d'enquête, c'est qu'il va décrire des situations que les chercheurs et les chercheuses vont considérer de classer comme des violences, mais aussi parce qu'ils vont les contextualiser avec d'autres éléments. Par exemple, pour essayer de se dire, bon, il y a cet acte qui a été subi, combien de fois est-ce qu'il a été subi, dans quel contexte est-ce qu'il a été subi, et que c'est comme ça qu'on va pouvoir réussir à saisir les violences dans les données. Mais tout ça fait que c'est un peu complexe à interroger les données. Et par contre, juste, je crois que toi, Sophie, tu étais en train de donner les données...
Les données qu'on trouve en ligne sur le site du ministère.
Sur le site
donc
du ministère.
Donc, c'est les déclarations à la police, je suppose.
Voilà. Après, il y a d'autres façons de saisir les violences. Ce sont les déclarations à la police ou les violences qui remontent à la justice. Mais là, on sait que ce sont des données qui sont très parcellaires, parce que la plupart des femmes victimes de violences conjugales ou de violences sexuelles ne vont pas les rapporter à la police. Et même toutes les femmes qui déclarent des violences à la police, elles n'aboutissent pas devant la justice. Donc on sait que ces données sous-estiment l'effet de violence.
Ok, mais alors même si elles les sous-estiment, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, est-ce que toi tu as pu analyser le phénomène des violences chez les couples lesbiens ? Est-ce qu'effectivement il y a moins de violences que dans les couples hétéros ? Ou est-ce que c'est une idée reçue ?
En fait, si je me suis intéressée à ce sujet, c'est parce qu'effectivement, j'étais étonnée de voir dans la littérature, je ne m'attendais pas à voir dans la littérature anglophone sur le sujet, que d'après des enquêtes qui avaient été faites dans les années 1980 et 1990, les femmes subissaient autant de violences dans les couples de femmes que dans un couple avec un homme. Et en fait, ça m'a étonnée, tout simplement parce que j'ai été sensibilisée au féminisme à travers le prisme des violences de genre, des violences commises par les hommes sur les femmes. Donc, ça m'a étonnée. J'ai essayé de m'intéresser un peu plus à cette question et finalement, les travaux qui existaient sur le sujet, ils permettaient pas vraiment de comprendre pourquoi est-ce que les femmes pouvaient subir autant de violences dans un couple avec une femme que dans un couple avec un homme. Or, dans un contexte hétéronormé, où il y a des rapports de domination assez forts des hommes sur les femmes, on peut s'étonner que les femmes subissent autant de violences quand elles sont dans un couple avec une femme. Donc, toute la question, en fait, qui me paraissait brouiller le sujet, qui faisait qu'on n'arrivait pas vraiment à démêler ce qui se passait, c'était que, finalement, ce terme de violence conjugale, ce qui était saisi dans ces données, ce sont des réalités très, très variées. Dans les données statistiques, quand on essaye d'évaluer la prévalence de violences conjugales, c'est-à-dire la part de femmes qui subissent des violences dans une population, on va regrouper dans le terme violence conjugale tous les actes de violence physique, psychologique, sexuelle, qu'ils aient été subis une seule fois ou plusieurs fois, que ce soit des actes de séquestration ou du contrôle de SMS sur un téléphone, etc.
Donc, toutes les violences sont mises sous le terme violence, alors que ce n'est pas les mêmes types de violences.
Ça dépend. Après, là, je parle de ce que j'ai trouvé dans les recherches dans les années 1980-1990. Après, justement, il y a eu des chercheurs qui se sont intéressés à cette question de comment est-ce qu'on crée un indicateur sur la violence conjugale et qui ont incité à créer des indicateurs un peu plus complexes où on distingue un peu différentes formes de violence. Et donc, il y a un sociologue états-unien, Michael P. Johnson, qui a beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait distinguer deux grandes formes de violence conjugale, ce qu'il appelle le terrorisme conjugal et les violences conjugales situationnelles. Très rapidement, en quoi est-ce que ces deux formes de violence elles se distinguent ? C'est que le terrorisme conjugal va reposer sur la mise en place d'un contrôle coercitif du conjoint agresseur sur la conjointe victime. Donc le contrôle coercitif, c'est un contrôle permanent de la victime, une situation d'angoisse permanente dans laquelle la victime est plongée. Ce contrôle coercitif, il ne s'exerce pas forcément à travers des violences physiques, il peut aussi s'exercer à travers des violences psychologiques. Et donc lui, il va dire qu'il faut absolument distinguer ce terrorisme conjugal, qui est la forme de violence conjugale la plus sévère, d'autres formes de violence conjugale, ce qu'il appelle les violences conjugales situationnelles, qui sont graves et qu'il invite à dénoncer, mais qui relèvent de logiques distinctes, qui sont plutôt des violences conjugales qui vont survenir à la suite de conflits, qui peuvent avoir des conséquences pour la victime. Il ne dit pas que ce n'est pas de conséquences, mais que quand même, ce sont d'autres logiques. Et ce sont entre autres des logiques de violence desquelles les femmes peuvent peut-être plus se sortir et qui vont peut-être avoir des conséquences moins sévères sur leur parcours. Donc voilà, donc il invite à distinguer les différentes formes de violence et à ne pas mettre dans le même sac tout fait de violence conjugale. Et moi, en fait, c'est un peu ce que j'ai voulu faire pour travailler sur les violences conjugales subies par les femmes dans les couples de même sexe. Merci.
Les violences conjugales, on l'a dit, elles se passent souvent dans la sphère privée, même si on en parle de plus en plus dans la sphère publique. À QRA, qu'est-ce qui vous a motivé à lancer le groupe d'entraide au sein de la communauté et quelque part à rendre publiques les violences?
Comme je disais tout à l'heure, ça avait commencé par un groupe de parole, donc suite au constat qu'il y avait plusieurs camarades dans le collectif et des personnes autour qui avaient déjà vécu cette situation et qui avaient besoin de s'exprimer là-dessus. On a voulu mettre les choses en action parce que nous, on croit vraiment que c'est une responsabilité collective en fait de prévenir ce genre de situation dans notre communauté, de protéger les personnes les plus vulnérables et et d'alerter et de travailler sur ces questions-là et de les prendre en charge ensemble et dans une logique de justice restaurative, parce que nous, on est anticarcéraux. Donc, on a fait une proposition d'atelier qu'on a diffusé sur nos réseaux sociaux, un atelier sur les violences conjugales dans les relations queer, qui aurait pour objectif de brainstormer ensemble collectivement pour trouver des solutions, enfin déjà établir des constats, trouver des solutions, trouver des pistes. Donc, on a organisé cet atelier qui a été un assez grand succès, puisqu'il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, ça a duré plus de 3 heures, on s'est séparés en plein de groupes différents. L'objectif était, on est ressorti de là avec plein de pistes différentes, plein d'idées différentes, et avec une énergie et plein de gens qui étaient motivés pour travailler sur la question. Et à partir de ça, du coup, le projet a pris vie, en fait, a suivi son cours. On a organisé, du coup, plusieurs ateliers par la suite. Et là, le projet, c'est, avec les personnes récentes, de fonder un collectif, en fait, à part de QRA. Donc, QRA, nous, on a été à l'initiative de tout ça. On a un peu propulsé le truc, mais c'est son propre mouvement et c'est son propre collectif maintenant.
Et donc, vous avez fait plusieurs ateliers avec un peu un même groupe de personnes qui sont revenues, ou c'était un très long, et puis là, aujourd'hui, celui-là, il se structure?
Ça a été un très long, et ensuite deux autres à la suite, avec certaines des personnes qui étaient dans ce premier atelier. Pas toutes les personnes qui étaient venues, mais les personnes qui étaient intéressées par poursuivre le travail sur le long terme, en fondant un collectif, etc. Donc, en ce moment, on est en train de travailler sur construire une ligne politique, réfléchir ensemble sur quel type de projet on a envie de mener, comment les mettre en place.
Et est-ce que ça te parle, cette différence qui a été évoquée par Tania, peut-être entre des types de violences, entre cette espèce de contrôle permanent et puis des choses qui sont peut-être de l'ordre du conflit, mais qui se passent très mal, enfin...
Ouais, alors nous, en fait, donc, alors déjà pour faire des disclaimers, nous on n'est pas du tout des chercheuses ou chercheurs, des professionnels de la question ou des psys, quoi, pas du tout, on est juste des personnes qui avons été malheureusement concernées par ça et qui avons voulu réfléchir et travailler sur ces questions. Donc déjà ça. Au cours de notre travail de recherche et des échanges qu'on a pu avoir avec les personnes de la commu, on s'est rendu compte que une des définitions qui avait été proposée par certains auteurs, c'était que des violences conjugales, elles sont caractérisées par le fait que les comportements sont répétitifs et unilatéraux. Donc ça veut dire d'une personne sur l'autre. Donc c'est pas une relation mutuellement conflictuelle ou quoi. C'est vraiment une personne sur l'autre et c'est répétitif. Donc c'est pas une seule fois je t'ai insulté, une seule fois il s'est passé quelque chose. Donc je pense que ça rentre un peu dans ce que t'expliquais tout à l'heure, Tania. Donc créer un peu une atmosphère quotidienne ou en tout cas récurrente de contrôle, de stress, de violence, etc.
Donc on serait dans le schéma pas situationnel du coup, mais l'autre
coercitif.
Après je crois que il ajoute d'autres éléments pour définir le contrôle coercitif, mais
dans les témoignages qui sont ressortis de ces ateliers, effectivement ça revenait assez souvent.
Ouais, le caractère répété.
Avant de continuer du coup à parler de nos couples dysfonctionnels, on vous propose une petite pause musicale avec une chanson de Zao de Sagazan et son titre Les Dormantes. Elle y parle de violence conjugale avec beaucoup de poésie malgré tout.
L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux, l'amour qui nous rendra peureux, même des plus belles histoires à deux, même des plus beaux amours heureux. On a beau croire qu'on a gros caractère, ces gens-là ont beaucoup de savoir-faire. Si tu veux pas rester bloqué dans leur filet, mieux vaut filer dès que t'y es. Mais comment savoir que t'y es alors que l'eau est bleue et que les oiseaux se font rares. Tout se passe tout doucement pour arriver plus facilement au versant noir et isolé qui s'y engage va certainement dévaler. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu aux plus sensibles par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Oh oui, l'amour. Ces gens-là sont du genre très beau parleur, ah, la guicheur, l'allumeur, le séducteur. T'auras beau être en train de chialer depuis des heures, monsieur te prêtera des erreurs, lui qui n'en fait jamais d'ailleurs. Tout se passe tout doucement dans ses murmures, le serpent, et après la colère, il vous jure que ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. Oui, ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. C'est l'amour, l'amour ça rend fou et j'en deviens sûr. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu aux plus sensibles par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Passer silencieusement pour arriver finalement à, au pire des tableaux, au croupissant, la laissant éternellement belle au bois dormant, la laissant éternellement belle au bois dormant.
Le pire, c'était peut-être ça. Le monde réclamait votre mort. Vos deux corps avaient toujours été abjects. Vous aviez été éjectés du bateau du monde. Vous vous étiez hissés sur une planche en bois. Et passé une période plaisante et sereine de circonstances, elle avait tenté de te noyer. Tu n'es donc pas seulement en colère ou dévasté. Tu souffres d'avoir été trahi.
La Maison rêvée est un roman en fragments qui raconte le vécu d'une victime de violence conjugale dans son couple lesbien. Vous êtes toujours sur Gouinement lundi et on reprend notre conversation avec la chercheuse Tania Leibovitch et Sarah du collectif Queer Racisé Autonome. Sophie, pour toi, qu'est-ce qu'il évoque ce passage ?
Pour moi, il dit « t'es pas seulement en colère ou dévastée, tu souffres d'avoir été trahie ». Et pour moi, ça évoque un peu ce silence spécifique ou ce combat qu'on peut mener quand on est dans un couple lesbien, déjà à faire légitimer son couple, à rendre son couple crédible et quelque part subir des violences dans ce couple-là. Si on en parle, eh ben, on vient dire, en fait, mon couple, il va mal, je peux subir des choses que j'aurais pu subir dans un couple hétéro, ou on vient peut-être même atteindre l'image qu'on est toujours en train d'essayer de préserver quand même de l'image d'une communauté lesbienne, sororale, etc. Donc voilà, pour moi, ça parlait de ça. Je ne sais pas si vous avez observé ça dans les entretiens ou dans les groupes de parole, ce fait de dire est-ce qu'il y a une difficulté supplémentaire à s'exprimer parce qu'on est queer.
Bah oui, carrément. Je pense qu'il y a plein de raisons supplémentaires qui font que c'est encore plus difficile de parler de ça quand on est une personne queer. Déjà, premièrement, un peu ce que tu disais, en fait, Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de parler parce qu'elles ont peur que la violence qu'elles vivent dans leur couple, elle soit instrumentalisée par les homophobes, par la société, pour descendre les relations lesbiennes, les relations queer. Notamment pour les personnes qui ça a été un combat dans leur famille de faire leur coming out, etc. Là, ça peut être vraiment compliqué de dire que finalement, cette relation, elle est extrêmement violente. Il y a d'autres défis qui sont spécifiques aussi aux communautés queer. Dans la communauté queer, souvent, c'est une communauté petite où il y a beaucoup de gens qui se connaissent, où il y a des dynamiques de popularité aussi qui font que ça peut très vite partir en gossip. Ça peut très vite devenir un concours de deux camps. Moi, je suis dans le camp 1, moi, je suis dans le camp 2. Et en fait, c'est la personne la plus populaire qui va avoir le plus de soutien. Donc, ça peut vite être dans ce genre de situation. On a aussi tendance dans la communauté à être contre le call-out, pour le meilleur comme pour le pire, ce qui met en fait les victimes de violences conjugales dans des situations très compliquées parce qu'en fait elles ont peur de s'exprimer par peur du backlash de voilà, toi t'as collé avec telle personne, c'est pas ok, voilà, et que ça se retourne contre elles. Et les personnes qui commettent des violences conjugales profitent souvent de ça et vont dire voilà, on m'exclut, c'est pas normal de faire ça, voilà. Donc il y a vraiment ça comme gros défi. Il y a aussi les oppressions systémiques qui sont un enjeu majeur dans les violences conjugales chez les queers, parce que ce qui va se passer souvent, c'est que les personnes qui commettent des violences conjugales vont instrumentaliser une identité marginalisée pour justifier ce qu'ils font, pour se dédouaner, voire pour accuser l'autre en fait de perpétuer une oppression systémique.
Par exemple, t'as un exemple ?
Par exemple, non, c'est pas vrai, moi je peux pas faire ça, je suis une personne lesbienne, trans, ceci, cela.
Je peux pas être auteur parce que je suis victime.
Parce que je suis victime, voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes queer qui ont construit leur identité en tant que personnes victimes, qui ont vécu une oppression systémique depuis toujours, qui ont vécu de l'homophobie, de la transphobie, etc. depuis toujours. Et du coup, ils ont du mal à se voir comme potentiellement bourreaux. En fait, comme ils sont tellement ancrés dans cette identité de victime. Donc, il y a cette difficulté aussi. Et puis, bon, ça, je ne pense pas que ce soit spécifique au queer, mais il y a un truc qu'on retrouve souvent dans les violences conjugales, c'est que la personne victime, elle a envie de protéger, en fait, la personne qui l'agresse. Parce qu'elle l'aime, il y a encore des dynamiques d'amour, etc. Donc, elle va rester dans le silence pour ne pas qu'il y ait des répercussions négatives sur la vie de la personne qu'elle aime et qui lui fait subir ces violences.
Une forme d'emprise, quoi.
Exactement.
Les violences conjugales dans les couples de meufs, elles font vraiment émerger une tension, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, ça existe, mais en même temps, on peut pas trop en parler. Et puis en plus, d'un point de vue féministe, on parle toujours des violences comme une conséquence du système hétéropatriarcal et de la domination masculine. Du coup, c'est presque gênant ou difficile d'aborder la question des violences commises par des queers ou par des femmes. Et comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'il y a aussi, finalement, de la violence entre les femmes sans retomber dans une rhétorique où voilà, c'est des femmes qui se prennent pour des hommes et elles sont violentes, etc. Est-ce qu'il y a du coup, il y a des... Enfin, t'en as déjà parlé un petit peu, mais il y a des spécificités au niveau des couples queer.
Oui, bah c'est un des grands défis aussi, hein, c'est que en fait, les violences conjugales hétérosexuelles, elles sont exercées dans un cadre très particulier, qui est le cadre du patriarcat, de la domination des hommes sur les femmes. Donc, les violences que les hommes commettent sur les femmes en couple, eh bien, c'est dans la lignée de toute cette domination systémique qu'on voit dans l'intime, dans les relations amoureuses, mais aussi au niveau de la société, voilà, au niveau économique, social, etc. Dans les relations lesbiennes, c'est plus compliqué parce que c'est beaucoup moins évident qui domine l'autre, socialement, économiquement, etc. D'ailleurs, souvent, c'est pas du tout, enfin, il y a pas forcément une personne qui domine l'autre. Donc, du coup, il y a un flou, et je pense que c'est de là que vient aussi l'incapacité de penser les violences conjugales dans les relations lesbiennes pour beaucoup de gens. Mmh. Bon, ben, si ma copine, elle me frappe, ben non, c'est pas des violences conjugales, parce que c'est les mecs qui frappent leur, c'est ça. Les violences conjugales.
Donc, ça conduit finalement à les invisibiliser encore plus, finalement, cette.
Ouais.
C'est une sorte de préjugé qu'on peut avoir.
Alors même qu'on est dans des communautés assez sensibilisées, c'est un peu le paradoxe.
Ouais. C'est exactement ça le paradoxe. Alors qu'en réalité, une violence, c'est une violence, hein, qui que ce soit qui la commette. Donc, voilà.
Et peut-être Tania, justement, comme toi, t'es venue parler de ce sujet des violences d'un point de vue recherche. Comment tu gères cette question un peu politique ? Comment tu gères le fait de pouvoir dire c'est un sujet important, même si c'est pas le même sujet politique que le sujet des violences conjugales hétéro.
De toute façon, à partir du moment où il y a quelque chose à expliquer, c'est un sujet important dans la recherche. Et là, en l'occurrence, il y a quelque chose à expliquer, puisque comment expliquer le phénomène des violences dans les couples de femmes, puisque, comme Sarah l'a rappelé, on le pense beaucoup dans le cadre patriarcal des hommes sur les femmes. Donc, c'est important de pouvoir l'expliquer. dans les données statistiques, c'est peut-être apparu un peu comme une évidence qu'il fallait l'expliquer, parce qu'en fait, on se rend compte que les minorités sexuelles féminines font partie des personnes qui déclarent le plus de violences dans les enquêtes statistiques. Alors, elles en déclarent parfois dans de précédents couples avec des hommes, mais du coup, il y a quelque chose là dont la recherche doit s'emparer et qu'elle doit essayer d'expliquer, quoi.
Et par rapport à, du coup, à la recherche que tu as menée, est-ce que tu as eu des pistes d'explication ou en tout cas des différences dans les violences
J'ai écouté Sarah caractériser les violences conjugales dont elle avait entendu parler au sein de son association, et je trouvais ça très intéressant parce que c'est justement un niveau de détail que moi, j'ai pas dans les données statistiques sur lesquelles j'ai travaillé. Parce que donc j'ai travaillé à partir d'une enquête qui a été passée en population générale, donc pour saisir les formes générales de violence. Donc on n'était pas rentré dans un niveau de détail qui essayait de savoir si il pouvait y avoir, une menace au coming out, par exemple, parce que c'est souvent quelque chose qui est cité comme une spécificité des violences conjugales dans les couples de femmes, etc. Donc moi, ce que j'ai regardé, c'est j'ai essayé de voir si les femmes qui déclaraient avoir subi des violences conjugales dans un couple de femmes était de forme différente de celle que les femmes rapportaient dans un couple avec un homme. Et effectivement, on se rend compte, en comparant un peu ces différentes déclarations, que dans les couples de femmes, les violences conjugales qui sont rapportées, ce sont beaucoup moins des violences corporelles, c'est-à-dire il y a beaucoup moins de violences physiques et de violences sexuelles. Alors attention, ça ne veut pas dire que les violences physiques et les violences sexuelles n'existent pas dans les couples de femmes. C'est juste que proportionnellement, elles rapportent moins de violences physiques et de violences sexuelles que les femmes en couple avec un homme. Et par ailleurs, ce sont des violences de plus basse intensité, dans le sens où elles n'incluent pas du contrôle coercitif dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment un contrôle permanent de la victime. Donc, les violences dans les couples de femmes sont des violences de plus basse intensité que les violences subies par les femmes dans les couples avec un homme. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les violences entre femmes ne peuvent pas être graves. C'est pas du tout ça. C'est juste proportionnellement à celles que les femmes rapportent dans un couple avec un homme.
On le voit dans l'enquête sur les morts violentes au sein du couple. Finalement, il n'y a pas d'auteur femme de féminicide au sein du couple commis par des femmes, il me semble, dans la dernière enquête sur les morts violentes au sein du couple.
En tout cas, ce qui me semble intéressant, parce que l'idée n'est pas uniquement de comparer pour comparer, et l'idée n'est pas juste de dire dans les couples de femmes, il y a moins de violences physiques et moins de violences sexuelles, et ce sont des violences de plus basse intensité. En fait, c'est pas juste pour dire ça, c'est pour dire on identifie quelle forme de violence est subie dans quel couple, et du coup, comment y répondre et comprendre comment est-ce que la violence, elle se construit dans tel ou tel couple. Et là où moi, du coup, je trouve qu'il y a un lien, on peut faire le lien entre les violences conjugales dans les couples de femmes et le patriarcat, c'est qu'en fait, les femmes sont socialisées à la violence différemment que les hommes. On apprend moins aux femmes à user de la violence, et du coup, les formes de violence conjugale entre femmes, c'est pas étonnant qu'à partir de là, elles prennent plus la forme de violence psychologique. Et ça veut pas dire que ces violences psychologiques, elles sont pas graves. C'est juste qu'on utilise d'autres modes de domination qui sont moins corporels.
Et comme on en a parlé, isolé des amis, il y a tout le sujet aussi de la communauté, du lien avec les... Enfin, de couper les relations de la personne, etc. On vous propose de faire une petite pause dans cette discussion sur les violences conjugales pour aborder des violences un peu plus institutionnelles. Et on dit bienvenue à Fanny de l'Association des journalistes LGBT pour sa chronique mensuelle.
En Italie, Giorgia Meloni fait la gueule et les lesbiennes se réjouissent. Pourquoi ? Parce que le 5 mars dernier, le tribunal de Padoue a décidé que les enfants nés grâce à une PMA à l'étranger pouvaient bien conserver le nom de leurs deux mères inscrit sur leur acte de naissance. Ça concernait une trentaine d'enfants qui risquaient de voir l'une de leurs mères, donc celle n'ayant pas accouché, tout simplement effacée de leur certificat de naissance. Cette décision du tribunal va à l'encontre de la circulaire publiée par le gouvernement de Giorgia Meloni, un gouvernement qui est, aux surprises, d'extrême droite. À Padoue, les mères lesbiennes peuvent donc respirer un peu, mais la bataille continue puisque le ministère de l'Intérieur ou le parquet de Padoue peuvent encore faire appel.
Tu peux nous expliquer pourquoi il y avait cette décision ?
Alors parce que Giorgia Meloni est partie en guerre contre les familles LGBTQIA+. Alors rappelons quand même d'où vient cette femme politique. Elle préside le parti d'extrême droite italien ultra-conservateur qui s'appelle Frères d'Italie ou Fratelli d'Italia en VO. C'est vraiment le Rassemblement national version italienne. Et puisque le président italien n'a qu'un pouvoir symbolique dans le pays, c'est elle qui est aux commandes, malheureusement. Donc en janvier 2023, 3 mois seulement après son élection en tant que première ministre, son gouvernement a fait passer une circulaire pour demander aux maires, M-A-I-R-E-S, de ne pas rédiger les actes de naissance d'enfants nés d'une GPA à l'étranger. Cette circulaire a ensuite été élargie aux enfants nés d'une PMA. Donc tout ça visait clairement les familles homoparentales. Et en juin 2023, c'est le parquet de Padoue qui a carrément décidé de contester les actes de naissance d'enfants nés de couples lesbiens où était inscrit le nom des deux mères. Donc certaines villes dirigées par des élus de gauche avaient effectivement choisi de faire inscrire le nom des deux mères le plus naturellement du monde. On leur demandait donc d'effacer rétroactivement le nom de celle qui n'avait pas porté l'enfant. Donc concrètement, ça signifie que s'il arrive quoi que ce soit à la mère ayant accouché, l'autre mère n'a plus aucun droit sur son enfant et celui-ci se retrouverait orphelin aux yeux de la loi dans le pire des cas. Donc les mères ont commencé à recevoir des lettres annonçant ce changement. Ça a évidemment provoqué la colère et l'inquiétude des familles et des associations qui ont demandé à la justice de faire valoir leurs droits, d'où la décision du tribunal de Padoue. Mais Padoue n'est pas une exception, puisqu'à Milan et Bergame, par exemple, la circulaire est désormais appliquée.
En même temps, l'Italie, c'est pas un très bon élève en matière de droits LGBTQIA+.
Alors, c'est vrai que l'Italie n'est vraiment pas une safe place pour notre communauté. Le pays est classé 34e sur 49 au classement de l'ILGA Europe, la branche européenne de l'International Lesbian and Gay Association. Ce classement détermine dans quel pays il fait bon vivre en tant que personne LGBTQIA+. Alors sur le podium, on retrouve dans l'ordre Malte, la Belgique et le Danemark. La France, elle, se classe 10e. Voilà. Donc, mais revenons en Italie. Pourquoi ce classement si mauvais? Parce que les personnes LGBTQIA+ y ont très peu de droits. Le mariage est interdit. Seule une union civile est autorisée depuis 2016. L'homophobie n'est pas du tout condamnée et les couples de même sexe ne peuvent ni adopter, ni avoir recours à une PMA et encore moins une GPA, vous pensez bien. Giorgia Meloni n'avait donc pas grand-chose à faire pour restreindre encore plus ses droits. Elle qui clame haut et fort « oui à la famille naturelle, non au lobby LGBT, oui à l'identité sexuelle, non à l'idéologie du genre, no comment ».
Et comment se sont organisées du coup les lesbiennes pour résister ?
Alors même si c'est pas facile, les militantes lesbiennes et les associations ne lâchent rien et se battent contre cette volonté de supprimer leurs droits. En mars 2023, des centaines de manifestants ont marché dans les rues de Milan pour protester contre la circulaire du gouvernement de Giorgia Meloni. Le réseau Eurocentral Asian Lesbian Community a également adressé une lettre ouverte à la première ministre et a appelé à manifester partout en Europe. Et donc en France, des médias voilà, comme La Déferlante, Télérama ou France Info sont partis à la rencontre des mères lesbiennes pour relater leur combat. Cosette, Tétu, Encore le Monde ont relayé aussi les attaques incessantes du gouvernement italien envers les mères lesbiennes. Voilà, c'est donc un traitement médiatique du sujet plutôt encourageant, mais il ne faut pas cesser d'en parler puisque le gouvernement italien peut continuer à faire des dégâts et on n'est pas à l'abri que cela ait des répercussions en France.
Merci beaucoup Fanny, merci pour cette chronique italienne et puis pour tout le travail de sensibilisation que fait l'AJN.
Vous êtes toujours sur Gwyn Malindi avec Tania, Sarah, Sophie et moi-même. On a parlé des violences dans les couples lesbiens et il nous semblait fondamental d'évoquer le phénomène de l'emprise. On avait parlé des violences psychologiques juste à l'instant. On a interviewé et lu et interviewé Pascal Jamoul, autrice de « Je n'existais plus, les mondes de l'emprise et de la déprise », qui est une chercheuse belge en anthropologie et assistante sociale. Dans son ouvrage, elle décrit les différents lieux où elle a pu étudier le phénomène de l'emprise. D'une part, elle l'a étudié dans le couple, dans la sphère familiale, dans le soin et les thérapies dites « New Age », au travail, au travers des nouvelles formes de management néolibéral, et dans les quartiers populaires de Marseille, laissés à la merci d'un réseau de l'économie souterraine. Elle définit dans son œuvre l'emprise comme un état de soumission et de dépendance à un pouvoir abusif qui les a utilisés comme des objets en prenant possession de leur corps, de leur psyché, de leur vie sociale et économique et avec leur assentiment. Comment, selon vous, repérer les signes de l'emprise ?
Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? C'est le caractère répétitif, on en a parlé, mais est-ce que vous voyez comment on peut repérer l'emprise ?
Moi, le seul truc que je dirais, c'est qu'il y a un zine qui s'appelle « Pas qu'un truc d'hétéro », que j'aime bien, qui parle des violences conjugales dans les relations lesbiennes, qui propose une autre définition justement de l'emprise, qui parlent de ça, où ils disent que l'emprise, c'est un phénomène de dépendance à l'autre qui fait que la perception du monde et de soi-même est vue à travers le regard de l'autre. C'est par exemple mettre de côté ses activités, ses propres problèmes, ainsi qu'une partie ou l'ensemble de ses analyses, visions, perceptions pour adopter celle de l'autre. Et cette définition en particulier m'a beaucoup parlé et ressortait beaucoup dans les témoignages des personnes qui venaient aux ateliers et aux groupes de parole.
Quand on finit par tout voir à travers l'autre.
Voilà.
De mon côté, je n'ai pas travaillé sur la notion d'emprise en particulier, puisque voilà, je vous ai parlé de cette notion de contrôle coercitif qui est peut-être plus répandue dans le milieu de la recherche sociologique et démographique sur la violence conjugale. Mais j'ai l'impression quand même qu'on peut faire un lien entre le contrôle coercitif et l'emprise, même si j'imagine qu'il y a des différences. Et effectivement, pouvoir essayer de voir quand est-ce que la personne perd de son autonomie, en fait, c'est quelque chose qui semble assez essentiel.
Merci. Bah, peut-être on va aborder aussi la question des auteurs, parce que le problème des violences, ce n'est pas que le problème des victimes, c'est quand même la question des responsables aussi et des auteurices. Peut-être on peut passer un petit extrait du livre de Jamoul.
Les tyrans sont souvent des personnes dont l'enfance a été détruite, dont toute relation à la tendresse, à l'échange, à leurs propres émotions, a été anéantie. En grandissant, ils normalisent la violence. En déshumanisant autrui, ils répètent inlassablement le meurtre psychique qu'eux-mêmes ont vécu. Leurs conduites d'emprise peuvent être des conduites tyranniques, qui visent à garder et à sécuriser le lien par l'asservissement. Iris pressent les humiliations, les blessures d'amour propre, les frustrations qu'a endurées Kevin. Elle connaît sa violence, mais elle espère que l'amour qu'elle lui porte va pouvoir le réparer, le soigner, le changer.
Est-ce que ce passage vous évoque quelque chose ?
J'ai peut-être un petit peu mal entendu le début, mais si je ne me trompe pas, il y avait cette idée que les personnes auteurs de violences sont souvent des personnes qui ont elles-mêmes vécu des violences quand elles étaient petites. Alors, moi, je ne suis pas complètement convaincue par cette idée parce qu'il y a l'enquête en VF qui a été faite dans les années 2000. Donc, l'enquête en VF, c'est l'enquête sur les violences envers les femmes et qui avait essayé de montrer justement que les personnes qui ont subi des violences quand elles étaient petites, finalement, elles n'avaient pas forcément les mêmes parcours de vie selon qu'elles étaient des hommes et des femmes. Et qu'effectivement, peut-être que les hommes avaient tendance à reproduire après des comportements violents, mais que ce n'était pas le cas des femmes. Du coup, cette idée que quand on vit des violences, quand on est petit, après on exerce des violences, peut-être qu'elle est à nuancer, puisqu'on observe que ce n'est pas forcément le cas chez les hommes et chez les femmes. Et que du coup, il y a peut-être aussi d'autres éléments à prendre en compte.
Merci pour cette précision. Et ce paragraphe, il est un peu plutôt se mettre dans la tête de cette Iris qui essaye toujours de comprendre, en fait, qui est toujours à un peu excuser ou comprendre ce qui va se passer dans la tête de son conjoint violent. Mais c'est sûr que la violence, c'est aussi une affaire de pouvoir, de domination. On en a parlé, c'est peut-être plus difficile de repérer qui domine qui dans un couple lesbien, mais il y a quand même plein d'autres aspects. Tu as parlé de la popularité. Il y a peut-être des questions de réseau social, il y a peut-être des questions d'origine, de classe, de travail, de famille. Enfin, voilà, il y a plein de façons en fait, où on peut dominer quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez pu parler de cette domination-là dans ces ateliers ? Est-ce que c'est ressorti souvent ?
Des autres manières dont une personne peut dominer l'autre en couple ?
Ou en tout cas du fait que la violence, elle venait aussi s'accompagner d'une domination qui n'était pas que psychologique quoi, sur l'autre.
Non, on n'a pas trop discuté de ça. Enfin, dans mes souvenirs, c'était pas l'objet de réflexion poussée. C'était peut-être en accompagnement sur d'autres réflexions, etc. Mais non, on s'est pas trop attardé là-dessus.
Et puis, vous avez parlé de justice restaurative. Puis, je pense qu'on n'a pas trop abordé cette grosse question du rapport à la police et du rapport aux institutions. Finalement, on est aussi dans des communautés qui n'adorent pas la police, aussi pour des raisons historiques ou systémiques bien entendables. Et du coup, c'est quand même une question, cette méfiance envers le système policier et judiciaire quand on est victime de violence ou quand on veut signaler des faits de violence. Comment est-ce que vous avez un peu résolu cette tension ou est-ce que vous en avez beaucoup parlé ?
Oui, alors ça, c'est un truc qui est revenu beaucoup. Nous, on est dans une logique de justice réparatrice parce qu'on n'est pas fan de la police, quoi. Par contre, on reconnaît que parfois, il n'y a pas d'autre option et que parfois, les victimes elles doivent reposer sur les systèmes qui existent. La question de la police, de l'anticarcéralité, elle ne doit pas reposer sur la victime. Ce n'est pas elle de trouver des solutions alternatives au fait d'aller porter plainte auprès de la police. Pour nous, c'est une responsabilité collective de toute la communauté queer. Et c'est un peu dans cette logique-là qu'on est dans le cadre de ces ateliers-là. Donc, dans le cadre de ces ateliers, nous, on a essayé aussi de brainstormer comment on peut faire pour rendre justice aux victimes, tenir les agresseurs responsables dans une logique anticarcérale, etc. Certaines pistes qui ont été évoquées pour l'instant, c'est déjà d'avoir un groupe qui prend en charge ça sur le long terme, un groupe qui échange avec la personne agresseuse et avec la personne victime et qui les suit sur le long terme, qui voit ce que la victime, elle voudrait comme réparation. Les réparations, ça pourrait être tout simplement une reconnaissance des faits et des excuses. Ça pourrait être une prise en charge financière d'un suivi psy. Ça peut être plein de choses comme ça. Il y a eu en tout cas plein de pistes différentes. Comme je disais tout à l'heure, nous, on est vraiment dans une logique que c'est notre responsabilité à nous tous de réfléchir à ça et de mettre en œuvre ces idées-là aussi, pas juste de les laisser au stade de l'idée. Voilà.
Sur ces questions de comment est-ce qu'on peut... des ressources, on a eu tout un entretien assez long avec Nabintou Mendy de En Avant Toutes, qui fait un super travail de prévention avant d'en arriver aussi aux violences et à comment réagir et à comment réparer. Il y a aussi comment faire pour que ça ne se passe pas ou pour repérer que ça se passe. Donc, on a eu plein de ressources dans ce cadre-là, dans une interview qu'on va évidemment diffuser aussi sur notre site.
Tu l'avais dit, Sarah, on rappelle quand même qu'en cas de danger, quand on est victime de violence, y a la police qui est compétente pour protéger les personnes. Et qu'après, en connaissant parfois les discriminations qui viennent s'ajouter au moment du dépôt de plainte ou la peur légitime de se présenter dans un commissariat, il y a un chat en ligne avec une équipe de policiers formés aux violences sexuelles, sexistes et sexuelles. Il y a la possibilité aussi de déposer une pré-plainte en ligne. Et les policiers nous rappellent après. Et il y a aussi tout un tas d'associations qui ont des permanences, donc il y a également une permanence spécifique d'information juridique pour les personnes LGBTQIA+, au CIDFF de Paris. Il y a des associations comme, on en a parlé, l'association En Avant Toutes, qui ont un chat d'écoute nommé Comment on s'aime, qui sont là du coup pour discuter en ligne et orienter, informer les personnes sur leurs droits. Voilà.
Il y a pas mal de choses qui ne sont pas trop pensées pour les queers, donc celles qu'on a vues là et qu'on a listées, c'est celles qui sont aussi justement spécifiques pour ne pas se dire qu'on va tomber sur quelqu'un qui ne va pas comprendre notre contexte. Ça nous semblait important. Le temps a filé tellement vite. C'est le moment de faire une pause petite annonce. On nous dit oui en régie. Alors, ça va être sans transition. On a un petit téléphone où on peut nous laisser des annonces.
Allô ? Les petites annonces de Gouinement Lundi, tous les quatrièmes lundis du mois, sur Gouinement Lundi.
Bonjour, bonjour, je m'appelle Marie, je suis en voyage pour quelques mois et on sera avec ma copine au Japon fin juin, début juillet, notamment à Tokyo puis à Kyoto. On aurait bien aimé rencontrer d'autres filles, qu'elles soient voyageuses ou qu'elles vivent au Japon. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire un petit signe. À vite.
Salut Gouinement Lundi. Merci pour votre émission qui fait du bien et dont je suis une auditrice assidue. Je m'appelle Alice et je voulais vous parler de ma pièce de théâtre qui s'appelle Merci pour la lumière et que je joue à la Comédie des Trois Bornes les samedis à 18h. Il reste encore quelques dates un peu éparses entre avril et juin. C'est un spectacle que j'ai écrit il y a 4 ans, à un moment où ma vie a pris un nouveau tournant sur plein d'aspects, que ce soit professionnel, relationnel ou autre. Donc ça parle un peu de tout ça, sans le dire, de nos rêves déchus, de nos doutes, de nos espoirs. Et puis c'est aussi un peu, j'espère, une invitation à l'émancipation. Voilà, je me dis qu'il pourrait possiblement faire écho à quelques auditeurs, auditrices par ici. Bon lundi, bonne semaine, bon printemps. Merci.
Si vous ne faites rien les lundis soirs, alors je vous invite à venir voir Jure-le au Théâtre de la Boussole. Jure-le, ça parle de 4 personnages féminins, ça parle d'amour, ça parle d'addiction, ça parle de ce qui se passe quand c'est plus grand que nous. Ça met aussi sur scène un couple lesbien magnifique et normalisé pour une fois en France. Et ça n'attend qu'une chose, c'est que vous veniez le voir. Donc, Théâtre de la Boussole, 20h, tous les lundis, à partir du 25 mars et les 3 premiers lundis du mois d'avril. À très vite.
Vous avez un nouveau message.
Tu cherches des butch musclés pour ton déménagement ? Tu veux déclarer ta flamme à ton crush du moment ? Envoie-nous un voice au 07 49 20 18 49. On diffusera ton annonce dans la prochaine émission Gouinement Lundi.
Et on revient, donc n'oubliez pas, si vous êtes à Tokyo, si vous avez envie d'aller aux trois bornes, tout ça, il faut en fait nous renvoyer un vocal ou même un petit texto. Et puis nous, on fait suivre. Voilà, c'est un système qu'on teste depuis quelques mois, les petites annonces à l'ancienne. C'est passé très vite, donc on avait plein de questions qu'on n'a pas à poser. Alors du coup, je vais juste vous en poser peut-être une dernière. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à peut-être des auditrices qui nous écoutent et qui peuvent peut-être être en difficulté?
Alors, n'hésitez pas à rejoindre le nouveau collectif qu'on est en train de fonder. Que vous ayez vécu ce genre de relation ou pas, c'est ouvert à toutes les personnes LGBT. Voilà, et si vous en avez vécu, bah, enfin, nous, on est plusieurs dans le collectif à avoir fait le constat que, voilà, il y a quelque chose quand même d'assez empouvoirant d'être dans l'action, en fait, après avoir subi passivement et avoir été dans un état de victime, quoi, pendant longtemps. Il y a un truc qui est quand même très fort dans le fait de se donner la possibilité d'agir et de changer les choses. Donc, voilà, pour l'instant, on utilise encore la page du collectif Queer-Assisé Autonome. Donc, vous pouvez nous écrire sur cette page-là. Mais bientôt, on va créer une page Insta, etc., pour le nouveau collectif à venir.
Super, merci beaucoup. Donc, écrire à QRA.
Oui, ben lundi, c'est fini. Avec un grand merci à nos deux invités, Sarah du collectif Queer Racisé Autonome et Tania Leibovitch de l'INED.
Fanny pour sa chronique de la JL. Et Pascal Jamoul et Nabintou Mendy, dont vous pourrez retrouver les interviews sur notre site gouinementlundi.fr et qui nous ont grandement aidés à préparer cette émission. Donc, il y a encore 40 minutes d'écoute pour vous sur le sujet. Merci à Joséphine qui a animé et préparé cette émission avec moi. Et les merci pour toute l'équipe.
Merci également à toute l'équipe de Gouinement Lundi qui s'agrandit. Serena, Gaëlle, Nola, Eline, Sophie la deuxième, Inès, Aura, Juliette, Anna et à Camille et Isabelle qui nous ont prêté leur voix pour les lectures.
Et voilà, on espère que ça vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur gouinementlundi.fr, sur toutes les plateformes de podcast. On va mettre toutes les ressources dont on a parlé, donc QRA, En avant toutes, le CIDFF et puis les autres reportages, on va les mettre en ligne. Et ne bougez plus si vous êtes sur Radio Fréquence Paris Pluriel, car tout de suite vient un petit mix concocté par Cerelove pour votre club Gwyn du printemps.
Gouinement Lundi, votre phare dans la nuit.